Les élections provinciales en novembre ou en juin. La proposition de loi organique pour le report du scrutin sera examinée ce soir à l'Assemblée nationale. Le groupe LFI a décidé de jouer l'obstruction parlementaire. Il a déposé 2000 amendements, ce qui suscite de nombreuses réactions. Patrick Martin entame une visite en Nouvelle-Calédonie. Le patron national du MEDEF va rencontrer les acteurs du monde économique. Il s'est rendu ce matin à l'hyper-U de Païta. En métropole, Nicolas Sarkozy en prison. L'ancien chef de l'État rejoint sa cellule à la santé. Son avocat a déposé une demande de remise en liberté. Une incarcération qui suscite beaucoup d'incompréhension. Et puis du football dans la page sport et le PSG dominateur lors de la troisième journée de la première phase de Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés 7-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pure obstruction, barrage, sabotage. Le groupe LFI a déposé donc près de 2000 amendements à la proposition de loi organique qui vise à reporter les élections provinciales. Le texte doit être examiné cette nuit pour nous à l'Assemblée nationale, Elisabeth Noir.
Et ce mur d'amendements risque de compliquer encore un peu l'adoption de la loi organique dont l'examen débute ce soir à minuit, heure de Nouméa. La proposition de loi organique adoptée par le Sénat doit être validée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et elle doit être promulguée, on le sait, avant le 2 novembre. Mais la France insoumise a déposé exactement 1659 amendements, qui sont des amendements de retrait, mais dont l'examen prendrait évidemment énormément de temps. Le rapporteur du texte, le député LR Philippe Gosselin, s'indigne de cette pratique sur X. Il a calculé qu'à raison de 5 minutes par amendement, il faudrait 164 heures de débat, et il juge particulièrement irresponsable l'attitude de LFI. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a elle aussi dénoncé une pure obstruction de la part du groupe LFI et elle appelle au retrait de ses amendements. Le député Nicolas Metzdorf estime, lui, que les députés de la France insoumise prennent en otage la Nouvelle-Calédonie. Il relève qu'ils ont déposé près de 2000 amendements sur le texte visant à reporter les provinciales et que c'est plus que ce qui est déposé sur le budget de la nation. Pour le député calédonien, ce n'est plus du débat parlementaire, c'est du sabotage assumé. Il affirme qu'en agissant ainsi, LFI prend en otage la Nouvelle-Calédonie et méprise la paix civile. Le groupe LFI assume quant à lui un barrage parlementaire. Et dans un communiqué, il estime qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de reporter ces élections, sauf à vouloir passer en force sur le projet de Bougival. L'examen de la proposition de loi organique pourrait être prolongé à jeudi, mais il n'est pas sûr que cela suffise à purger près de 2000 amendements. Le gouvernement dispose aussi d'armes constitutionnelles pour restreindre en partie les débats. Toujours est-il que c'est un nouvel obstacle dans la mise en œuvre de l'accord de Bougival. En plus du nombre d'amendements, la mobilisation des députés pose question, elle aussi. Le bloc central, les Républicains et les Socialistes devraient voter pour, mais la plupart des autres groupes d'opposition voteront contre, et il y a une inconnue sur le vote du Rassemblement national, ce qui peut aboutir à un vote très serré, en fonction de l'assiduité des députés.
Et dans ce contexte, l'UNI et le Rassemblement ont chacun écrit aux députés pour leur demander de voter en faveur du report des provinciales.
La lettre du groupe UNI est signée de Victor Toutougoro, Jean-Pierre Diaoué et Adolphe Digoué, les signataires de Bougival. Ils demandent solennellement aux députés de voter en faveur du report des provinciales en affirmant notamment que l'accord de Bougival s'inscrit dans une trajectoire historique et propose un dispositif rénové d'autodétermination porteur d'une vision inclusive de la souveraineté de Kanaky-Nouvelle-Calédonie en partenariat avec la France. Ils indiquent que leur objectif politique demeure inchangé, faire accéder la Calédonie à la pleine souveraineté dans un esprit de co-construction avec l'État français et dans le respect des aspirations de toutes les composantes de la société calédonienne. L'UNI qui appelle les députés à la responsabilité en déclarant que le vote en faveur du report des provinciales serait un signal fort, celui du soutien au compromis, à la responsabilité et à la paix. La lettre du Rassemblement s'adresse aux députés de la droite républicaine et elle est signée d'Alcide Ponga et de Virginie Ruffnac, tous deux signataires de Bougival. Ils écrivent que s'opposer au report des provinciales aurait comme conséquence de mettre fin à tout projet d'accord. Pire encore, écrivent-ils, cela consacrerait le principe d'élection provinciale en novembre sur la base d'un corps électoral gelé, privant des milliers de Français durablement installés sur le territoire de choisir leurs représentants locaux. Alcide Ponga et Virginie Ruffnac s'inquiètent que les députés LFI, communistes et écologistes aient décidé de prendre fait et cause pour la minorité radicale des indépendantistes en mettant tout en œuvre pour que le texte soit rejeté. Et ils appellent les députés de la droite républicaine à la responsabilité en espérant que l'avenir de notre terre de France du Pacifique ne sera pas condamné sur l'autel de l'instabilité politique et institutionnelle nationale qui marque la fin du mandat présidentiel Fin de citation.
Et Virginie Rufnacht fait le parallèle entre l'attitude de LFI qui a déposé des centaines d'amendements à l'Assemblée nationale et celle du groupe UC-FLNKS qui demande la démission du président du gouvernement et veut déposer une motion de censure à son encontre.
On assiste à une totale LFisation du groupe UCFLNKS. L'objectif est de créer le chaos dans les institutions. Aujourd'hui, on demande la démission du président du gouvernement pour des raisons totalement fallacieuses, notamment l'absence de réforme. On constate qu'en fait, le groupe UCFLNKS est systématiquement absent de toutes les réunions que le gouvernement organise pour justement planifier le plan de réforme. Et ils ont le culot ensuite de venir dire qu'il n'y a pas assez de réformes. Donc on le voit bien, c'est la stratégie du pire à l'image de ces LFI qui sont en train de déposer 1400 amendements sur le projet de loi organique de report des élections provinciales. On n'est pas là pour construire, on est là pour détruire. Et puis finalement, cette motion de censure qu'ils souhaitent pour le président du gouvernement calédonien, c'est un copier-coller de la motion de censure des LFistes à Paris contre le gouvernement national. Donc, soi-disant, ils seraient indépendantistes, mais en fait, ils sont conseillés par les LFistes et ils font un copier-coller des stratégies métropolitaines en la matière.
Et à la veille de l'examen par l'Assemblée nationale de ce projet de loi organique portant, reportant les élections provinciales, l'ancien ministre des Outre-mer, Manuel Valls, s'était auditionné cette nuit pour nous par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, Elisabeth.
L'ancien ministre d'État, ancien ministre des Outre-mer, qui n'a plus de fonction ministérielle depuis la constitution du gouvernement Le Cornu II. Mais les députés de la délégation Outre-mer souhaitaient cependant l'entendre pour mieux comprendre l'accord de Bougival et les conditions dans lesquelles il a été signé. Manuel Valls qui a d'abord répondu à la question « Que s'est-il vraiment passé dans la nuit du 12 juillet à Bougival ?»
À deux reprises, nous avons rencontré dans la soirée et dans la nuit la délégation du FLNKS qui n'avait pas recueilli l'accord du bureau politique, l'accord pour signer ou l'accord sur le fond. J'ai beaucoup insisté pour que cette délégation du FLNKS puisse signer. À ce moment-là est intervenu l'un des responsables de l'UNI qui aujourd'hui soutient l'accord de Bougival et qui nous a proposé une manière d'avancer, c'est que tout le monde signe le projet d'accord qui permette à chacun ensuite de s'expliquer sur place pour convaincre les mandants ou les bases. Donc ça a été une subtilité et c'est sur ces bases-là que la délégation du FLNKS a signé. Nous savions que nous signions un accord. Mais la délégation du FLNKS avait été très claire en disant qu'elles avaient besoin de temps ensuite pour convaincre.
Les deux députés de la Nouvelle-Calédonie assistaient à cette audition. Ils ont tenu aussi à expliquer leur position ce jour-là, en commençant par le député de la première circonscription, Nicolas Mezdorf, qui évoque le respect de sa signature.
Les indépendantistes nous avaient dit à la fin de l'accord de Bougival, on a peur pour vous, les non-indépendantistes. Parce que cet accord, il est plutôt favorable aux indépendantistes. Et comment vous allez faire, vous, les loyalistes, pour défendre le fait que vous avez créé un État dans l'État, qui a une double nationalité, et que vous avez une loi fondamentale qui apparaît comme la constitution d'un nouveau pays? Mais nous, on a pris nos responsabilités, on est allé devant nos militants. Puis on a expliqué les choses, et on a expliqué pourquoi on avait signé. Et ça a bougé. On a perdu des gens, on a perdu des élus. Mais on a tenu notre parole. Parce que le titre de l'accord, c'est le pari de la confiance. Donc nous, quand on appose une signature, on va jusqu'au bout. Donc on a signé dans l'accord de Bougival le décalage des élections provinciales pour la mise en œuvre de l'accord. C'est signé, donc on respecte la signature, c'est tout.
Le député Emmanuel Tchibaou a pour sa part répété une fois encore que l'accord signé à Bougival était un projet d'accord qui devait être soumis aux structures du FLNKS.
On a fait valoir le fait qu'on n'avait pas le mandat, vous l'avez répété, et que c'est pour ça qu'on a demandé à inscrire la notion de projet d'accord et la notion de provisoire. Donc moi, je n'ai pas dit autre chose que ce que nous, on s'est dit ensemble. Pourquoi on n'a pas fait la suite de ce qui était convenu, dans la mesure où il fallait avoir le retour des structures pour pouvoir poursuivre les discussions? Donc je n'ai pas renié ma parole sur ça. On a eu le temps d'échanger par la suite. On a dit, mais c'est un projet d'accord. Maintenant, c'est publié au journal officiel. La PPLO s'exprime sur la mise en place de cet accord. Le FLNKS s'est opposé à cet accord. Pourquoi on n'a pas tenu les engagements qui nous ont été formulés le soir? C'est juste une question simple et qu'on est toujours dans la phase de discussion pour nous.
Et à la fin de cette audition de 2 heures, Manuel Valls est revenu sur les différences entre Deva et Bougival.
Il y a une différence entre Deva et Bougival. C'est que Deva, personne n'a signé un accord. Il n'y a pas eu une signature. On a constaté qu'il y en avait qui étaient pour, d'autres qui étaient résolument contre, que je ne pouvais pas personnellement, politiquement, avancer sur le dossier. Mais il n'y a pas eu d'accord signé. Mais cependant, tout le monde a repris des discussions. Et la différence entre Bougival et Deva, moi je lui réponds sans aucun problème, c'est que Deva, oui, c'était l'État associé tout de suite, et Bougival, c'est un processus encore, puisque l'élément central dépendra de l'évolution, enfin, des transferts des compétences régaliennes dans un temps non déterminé. C'était ça l'intelligence.
L'ancien ministre des Outre-mer auditionné par la délégation aux Outre-mer à la veille de l'examen par l'Assemblée du projet de loi organique qui reporte les provinciales.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici d'abord la réponse à notre question d'hier. Et 88% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour adopter la loi organique qui vise à reporter les élections provinciales. Ils sont 12% à penser que ce ne sera pas le cas. Voici notre question du jour. Comprenez-vous la démarche du groupe UC-FLNKS qui demande la démission du président du gouvernement? Si vous la comprenez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Il est 11h41, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment le début de la visite de Patrick Martin, le président national du MEDEF arrivé sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Le nouveau SUV Subaru Forester, un design renouvelé, moderne et affirmé. Le nouveau SUV Subaru Forester, 182 chevaux sous le capot, 4x4 permanent et technologie EyeSight pour une sécurité et un confort incomparables. Le nouveau SUV Subaru Forester, chaque trajet devient un moment de sérénité et de maîtrise. Venez le découvrir et l'essayer au village automobile au PK4 à Nouméa ou chez NC Motors à Koné. Le nouveau Subaru Forester, puissance, style et innovation réunis dans un SUV unique. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
La Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie vous invite au salon BAT Expo et Plus du 24 au 26 octobre à la baie de la Moselle. Un événement dédié aux professionnels et au grand public autour du bâtiment, de l'habitation et de la décoration. Vendredi et samedi de 9h à 17h30 et dimanche jusqu'à 16h. BAT Expo et Plus, un salon incontournable pour construire, rénover et décorer sa maison.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Je vous le disais juste avant la pause, le président du MEDEF national est en Nouvelle-Calédonie. Il est arrivé hier soir pour une visite d'un peu plus de 48 heures, Lionel Sarraud.
Une courte visite qui va permettre à Patrick Martin, le président du MEDEF national, de rencontrer la plupart des acteurs économiques et institutionnels du territoire. Une visite qui n'est pas une simple visite de courtoisie de Patrick Martin à l'une des fédérations de l'organisation patronale.
Je suis très attentif à aller au contact de nos adhérents et puis j'ai une sensibilité particulière pour tous nos territoires ultramarins, évidemment pour la Nouvelle-Calédonie en particulier, une relation de grande proximité et d'admiration pour la présidente du MEDEF Nouvelle-Calédonie qui, je crois, a parfaitement assumé ses responsabilités et qui m'a, si besoin en était, sensibilisé à l'impératif de redresser l'économie néo-calédonienne, parce que c'est ça qui décidera tout en définitive. Je sais bien qu'il y a des enjeux institutionnels, à proprement parler politiques, mais enfin, on voit bien avec l'augmentation du taux de chômage, le dépérissement d'un certain nombre de secteurs d'activité, que ça entraîne dans une spirale négative l'ensemble de la société, parce que l'emploi est affecté, le logement est affecté, les recettes fiscales sont affectées. Donc c'est pas très surprenant de la part d'un président du MEDEF. Je pense que l'économie est quelque chose de très fondateur, il faut s'y intéresser. Je suis convaincu qu'il y aura une prise de conscience collective, que s'il n'y a pas de prospérité et donc une économie dynamique, tous les autres débats sont assez vains et ne peuvent entraîner que le chaos et les déchirements, ce qu'on veut tous éviter.
Et ce matin, pour débuter sa visite en Calédonie, Patrick Martin a visité la nouvelle usine Biscochoc sur la presqu'île de Nouville, puis il s'est rendu à l'hyper-rue de Païta où il a visité le centre commercial, mais aussi la galerie commerciale. Une visite que Patrick Martin a effectuée avec notamment Ronan Delay, membre du comité directeur du MEDEF et président du syndicat des commerçants.
MEDEF France est très influent au niveau économique, politique. Son avis compte énormément. Donc effectivement, sur des sujets comme la défiscalisation, la relance, les soutiens de l'État aux entreprises, c'est évidemment un poids considérable. Et le MEDEF en Nouvelle-Calédonie fait un gros travail au niveau local. mais avoir l'appui du MEDEF français est une réelle plus-value pour l'économie des entreprises calédoniennes.
Patrick Martin qui poursuivra sa visite cet après-midi avec une rencontre avec des élèves du programme Mentorat du lycée Jules Garnier. Patrick Martin qui participera également au Théâtre des Lilles à une conférence sur le thème « Entreprendre pour l'avenir, la France et la Nouvelle-Calédonie face aux défis économiques et sociaux ». Notez que Patrick Martin sera également demain à la mi-journée l'un de vos invités dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
Comment agir face à un chef d'entreprise en détresse psychologique? Comment reconnaître une personne en situation de crise? La PESA apporte des réponses à ces questions. L'Association d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë a organisé une formation sentinelle ce matin, Charlotte Coulson.
Le quotidien d'un chef d'entreprise, notamment dans les petites structures, n'est pas toujours simple. Le risque de fatigue, voire d'épuisement psychologique est réel, surtout si l'activité de la société rencontre certaines difficultés. Les problèmes peuvent s'accumuler, mener à une dépression, voire, dans certains cas, à une tentative de suicide. Mais il est possible d'agir en amont, apprendre à repérer les signes annonciateurs pour venir en aide à une personne en détresse. Les participants présents ce matin sont en tout cas volontaires pour essayer d'aider leurs prochains.
En fait, je suis chargée d'affaires professionnelles, donc je vois tous les jours des entrepreneurs dont beaucoup sont en difficulté. Surtout en ce moment, vu la situation économique, c'est vraiment pas évident pour eux. Donc pour moi, c'est bien quand même d'être au courant de tous ces petits signaux d'alerte qui pourraient les pousser à se suicider. Surtout les outils, effectivement, et surtout le fait de, comme il disait, d'aller de l'avant et ne pas avoir peur de poser des questions précises sur « vous allez pas bien, mais à quel point ?» C'est vrai que souvent... que dans le cadre professionnel, on n'ose pas poser ce genre de questions. Donc ça m'a surtout appris ça.
Et si vous aussi, vous repérez une ou un dirigeant en détresse psychologique dans votre entourage professionnel, vous pouvez alerter l'APESA au 78 41 48.
50 détenus introduisent un référé liberté auprès du tribunal administratif. Leur avocat demande des mesures rapides pour améliorer les conditions de détention au camp Est, Nicolas Legrand.
Oui, une procédure plutôt rare portée par l'avocat métropolitain Maître Charlie Salkazanov. Le tribunal administratif a l'habitude de traiter des dossiers de demande d'indemnisation de détenus à leur sortie qui demandent compensation pour leurs conditions de détention. Ici, la procédure vise à obtenir des aménagements de la prison de Nouville. L'avocat pointe du doigt une surpopulation carcérale conduisant à mettre des matelas au sol, à aménager des cellules dans des conteneurs. Il demande aussi à ce que les toilettes soient isolées du reste de la cellule par une porte, sans oublier la lutte contre les souris, les cafards et les mille-pattes. Ont aussi été abordées lors de l'audience de ce matin les conditions d'accès aux soins, à la cantine, c'est-à-dire à l'achat d'eau notamment, ou encore aux activités. Écoutez Maître Charlie Salkazanov.
On dénonce des conditions de détention indignes en tout point, avec des matelas au sol, de la présence de nuisibles, une offre d'activité inexistante et des détenus qui sont contraints de végéter 23 heures par jour dans des cellules où ils s'entassent à 4 alors qu'il n'y a que seulement 2 lits dans ces cellules.
Et donc concrètement, cette procédure, elle vise à quoi?
Alors elle vise à obtenir des mesures très concrètes à court terme pour obliger l'administration à faire en sorte de respecter des principes élémentaires, des principes qui sont garantis par les textes européens, par la Constitution, par les droits et libertés fondamentaux, avoir un accès à un espace vital décent, à mettre fin à toutes ces conditions, fin des matelas au sol, fin aussi de l'incarcération dans des conteneurs maritimes qu'on voit qu'ici. Tout est lié à la surpopulation carcérale et c'est aujourd'hui cette procédure qui est l'acheminement d'un long parcours mais qui a pour objectif de mettre un terme à tout cela.
Lors de l'audience de ce matin, la directrice du camp Est a répondu chiffre à l'appui concernant les conditions de détention. Il y a 552 détenus aujourd'hui pour 397 places au camp Est. La jauge a été revue à la baisse en raison de travaux de rénovation. Elle a évoqué également le contrat passé avec un prestataire pour éloigner les animaux nuisibles des cellules ou encore la présence d'une équipe médicale à demeure au camp Est. Afin d'apporter des éléments complémentaires, elle a demandé un délai pour que l'instruction soit poursuivie jusqu'à demain midi. Le juge rendra lui sa décision lundi.
C'est Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de la France dans le Pacifique, qui était ce matin notre invitée à 7h30. Elle est revenue sur le 55e CRGA, le comité des représentants des gouvernements et administrations de la CPS, qui a agréé il y a quelques jours deux projets français. Le premier, c'est le lancement d'un programme régional de soutien à la création audiovisuelle océanienne. Le second, c'est la promotion de l'utilisation de scories de nickel calédonien pour lutter contre l'érosion côtière. Véronique Roger-Lacan, qui a par ailleurs été interrogée sur le groupe Fer de Lance mélanésien, qui a pétitionné devant le C24 à l'ONU. Le groupe Fer de Lance mélanésien a salué, je cite, « les efforts collectifs des Calédoniens et du gouvernement français pour trouver une solution politique stable ». Fin de citation. Écoutez la réaction de l'ambassadrice de France dans le Pacifique.
On a été décrit par toute la presse et les analystes dans la région et à l'ONU comme d'horribles colonialistes qui militarisent l'espace océanien. Les personnes qui colportent ce genre de propos ne connaissent pas la réalité, parce que si on parle de militarisation de l'espace, il y a d'autres puissances qui s'engagent dans cette voie-là, dans le Pacifique. On a fait de sorte de rétablir la vérité par des contacts bilatéraux auprès de tous les États du Pacifique. Et la dernière quatrième commission, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Fidji, qui sont les membres du Pacifique de ce comité 24 sur la décolonisation à l'ONU et qui s'expriment aussi au nom du GFLM, ont salué les efforts déployés depuis janvier 2025 et qui ont abouti à Bougival et ont encouragé les uns et les autres à se rallier à ce cadre de négociation.
Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de la France dans le Pacifique, était donc notre invitée ce matin sur RRB. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast audio et vidéo sur rrb.nc. Restons dans la région où les îles Salomon envisageraient de créer leur propre armée. Plusieurs membres du gouvernement manélé se sont en effet exprimés dans ce sens. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette idée a été soutenue par le ministre de la Sécurité nationale, Jimson Tanagada, lequel a déclaré lors d'un discours au Parlement que, je le cite, « il ne s'agit pas d'une tentative de militarisation de notre pays, mais d'un effort national à long terme » visant à renforcer la résilience, la souveraineté et l'autonomie des îles Salomon. Le gouvernement adopte une approche prudente sur le sujet, a-t-il poursuivi, mais notre pays ne doit pas ignorer l'escalade des tensions géopolitiques dans la zone. Le Premier ministre salomonais, Jeremy Manele, a déclaré de son côté qu'une armée salomonaise pourrait également apporter son aide en cas de crise dans la région. La création d'une force militaire mélanésienne serait bénéfique, a-t-il estimé. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Avant de marquer une nouvelle pause dans ce journal, je vous rappelle que Radio Rythme Bleu est partenaire du concert que Patrick Bruel donnera samedi soir à l'Arène du Sud de Nouméa et RRB vous propose de gagner des places pour ce concert depuis 11h ce matin. Vous avez jusqu'à midi pour envoyer invite au 3146. Invite au 3146 jusqu'à midi seulement. Ce sera l'heure du tirage au sort. Il y a 5 places en jeu, alors n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des places pour ce concert de Patrick Bruel. Vous envoyez invite au 3146 dès maintenant et encore pendant 7 minutes. Voilà la pause, une nouvelle pause dans ce journal et dans un instant l'actualité en métropole dominée évidemment par l'incarcération de Nicolas Sarkozy.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vendredi 24 octobre, venez soutenir les candidats de la grande finale du concours d'éloquence de la ville de Nouméa. La parole est à toi.
Ils auront chacun 5 minutes pour vous surprendre, vous faire rire, vous émouvoir sur un thème de leur choix. Une soirée dédiée à l'expression orale, sous toutes ses formes. Une soirée où la jeunesse prend la parole.
Vivez la finale du concours d'éloquence de la ville de Nouméa, le vendredi 24 octobre à 19h, dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Nicolas Sarkozy ne s'est évidemment pas soustrait à la justice. L'ancien chef de l'État s'est rendu à la prison de la santé pour commencer à purger sa peine de prison, qui a fait l'objet d'une exécution provisoire par décision du tribunal, décision que beaucoup jugent abusive au regard des conclusions du procès. L'ancien chef de l'État s'est donc rendu avant l'heure prévue à la prison de la santé. Cette incarcération soulève beaucoup d'indignation et de nombreuses personnes sont venues le soutenir lorsqu'il a quitté son domicile. William Molinier pour Europe 1.
Une foule silencieuse massée devant le domicile de Nicolas Sarkozy jusqu'à l'arrivée de l'ancien président au bras de Carla Bruni. Nicolas Sarkozy descend la rue à pied, salue la foule et sa famille. L'image restera gravée pour Hugues, habitant du 16e arrondissement de Paris.
Je trouve qu'il est digne et qu'il fait face aux épreuves avec
courage.
Comme lui, des centaines d'anonymes, souvent d'anciens électeurs, sont venus apporter leur soutien à Nicolas Sarkozy. Jean, étudiant de 25 ans.
De mettre en prison à cet âge-là, c'est honteux, honteux, vraiment. Et donc, c'est important qu'on soit réunis pour montrer des jeunes, des moins jeunes, la ferveur que nous avons pour un ancien président, pour le respect de la fonction.
Les proches de Nicolas Sarkozy sont également présents, comme l'ancienne ministre Nadine Morano, outrée par l'incarcération de l'ancien président.
Je suis là pour le soutenir et lui dire que beaucoup de Français sont tellement scandalisés par ce qui se passe ce matin que, je me devais d'être là.
Nicolas Sarkozy, lui, affiche sa sérénité, embrasse une dernière fois ses enfants avant de monter dans sa voiture, escorté par une dizaine de motos de policiers. Il dormira ce soir à la prison de la Santé, une première pour un ancien président sous la Ve République.
Une fois incarcéré, son avocat a annoncé que la défense avait déposé une demande de remise en liberté. La procédure devrait prendre environ un mois. Maître Christophe Ingrin, ému lui aussi, s'en est expliqué.
Les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits. Pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. Rien ne justifie la première heure de détention. En tout état de cause, même si rien ne justifie cette détention, il y est pour un mois. C'est un moment qui est très dur, mais le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une grave injustice, une honte. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. En utilisant la méthode de l'exécution provisoire, vous savez qu'en droit français, rien ne permet de contester cette exécution provisoire. Il n'y a pas de moyen d'aller devant une juridiction d'appel sur l'exécution provisoire. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Il est rentré, il est donc maintenant incarcéré. Et notre tâche, c'est de le faire sortir de détention le plus rapidement possible pour mettre un terme à cette situation. Puisque je rappelle que, en fait et en droit, Nicolas Sarkozy est innocent au moment où on parle. Et en dépit de ça, il est incarcéré.
Le placement en détention de l'ancien chef de l'État reste une mesure incompréhensible pour de nombreux Français, y compris par ceux qui ne partagent pas ses idées politiques. Écoutez ces réactions recueillies par nos confrères d'Europe 1.
C'est injuste. C'est une honte vouloir le passer à la moulinette, d'être incarcéré comme un trafiquant de drogue ou comme un terroriste. Moi, j'ai pas voté pour lui, mais je peux vous dire qu'il mérite pas ça.
Je crois qu'il y a des gens qui commettent des actes vraiment très dangereux et ils sont pas emprisonnés. Si vraiment c'était des actes horribles, criminels, on pourrait le comprendre, mais là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a pas de la haine derrière tout ça ?
Je suis surpris de voir que l'exécution provisoire joue alors même qu'on n'a pas été au terme de la procédure et de l'appel. Les juges ont peut-être eu un tropisme politique dans leur décision.
La question de l'exécution provisoire d'une peine de prison avant même l'appel d'une décision de première instance continue d'interroger. C'est un débat légitime dans une démocratie, a déclaré Emmanuel Macron lors d'un déplacement en Slovénie, car tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours. Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient, a déclaré le président de la République, qui n'a pas souhaité, au regard de sa fonction, commenter la décision de justice.
Je suis le garant du bon fonctionnement de nos institutions et ce faisant de la bonne articulation entre l'autorité judiciaire, l'exécutif, le législatif, et y compris quand cela touche l'ancien président de la République. Donc vous ne me verrez pas ici faire quelques commentaires que ce soit. Et je pense qu'il est important que les choses soient ainsi gardées. Néanmoins, que l'image, pour beaucoup de nos compatriotes, je pense surtout à ça, de voir un président incarcéré par cette décision de justice puisse susciter des commentaires, c'est normal. Et je pense qu'il faut distinguer l'émotion, y compris l'émotion légitime de proches d'une partie du pays, le respect qui est dû à toute personne, et le bon fonctionnement de la justice qui, de là où je suis, ne suppose pas de faire des commentaires.
Emmanuel Macron qui intervenait donc depuis la Slovénie. L'examen du budget 2026 de la France débutera jeudi au Palais Bourbon. Les députés doivent commencer par le budget de la sécurité sociale et les débats pourraient être retardés car le Premier ministre souhaite y intégrer la suspension de la réforme des retraites. Sébastien Lecornu a en effet annoncé qu'il préparait une lettre rectificative dans ce sens. De son côté, Emmanuel Macron s'est dit favorable sur le principe à l'organisation d'un référendum sur les retraites. Jordan Bardella a écrit au nouveau ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Le président du Rassemblement national lui demande quel est le nombre de clandestins clandestins en France. Une demande de clarification alors que la veille, le nouveau ministre de l'Intérieur avait refusé de répondre à cette question lors d'une émission à la télévision. Alexandre Chauveau.
Pour Jordan Bardella, le refus de Laurent Nunez d'indiquer le nombre de clandestins présents en France ne peut qu'alimenter la défiance envers la parole publique. Dans une lettre qu'Europe 1 s'est procurée, le président du RN exige ainsi la communication de ce chiffre, présenté comme étant un élément d'information nécessaire à l'exercice du jugement des Français. Nos compatriotes ont le droit légitime de connaître la réalité de la politique migratoire conduite en leur nom, écrit ainsi Jordan Bardella au ministre de l'Intérieur, qui, relancé à plusieurs reprises sur le sujet, a finalement évoqué une fourchette allant de 200 à 300 000 clandestins. Un chiffre qui surprend au RN car l'un des prédécesseurs de Laurent Nunez, Place Beauvau, Gérald Darmanin, donnait en 2021 une estimation 2 à 3 fois supérieure, entre 600 000 et 700 000 sans-papiers présents sur le territoire français. Avec ce courrier, Jordan Bardella entend donc remettre la lumière sur l'impact social et culturel de l'immigration illégale, mais aussi ses conséquences économiques, et ce, alors que les débats budgétaires ont débuté en commission à l'Assemblée.
Dans le reste de l'actualité, en métropole, en bref, notez que les 4 cambrioleurs du Louvre restent introuvables, ainsi que leur butin. Ils ont réalisé en quelques minutes en plein jour et dans un musée ouvert ce qu'on appelle déjà le casse du siècle. Les bijoux qu'ils ont dérobés restent eux aussi évidemment introuvables, des bijoux invendables en l'état, mais dont la valeur est estimée à 88 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 10 milliards de francs. Il est midi et une minute, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive et notamment cette belle victoire du PSG ce matin au Bayer Leverkusen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure, adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Le football avec le début ce matin de la 3e journée de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain tenant du titre a encore brillé, Michael Gineski.
Un succès large sur le terrain du Bayer Leverkusen, portant 5e de la Bundesliga, le championnat allemand. Le score est sans appel, 7 buts à 2. Des réalisations parisiennes signées à Pacho, Kvaratskhelia, Mendes, Dembélé, Vitinha et un doublé de Doué. Le PSG a régalé, notamment le ballon d'or, Ousmane Dembélé, qui a marqué 3 minutes seulement après son entrée en jeu pour son retour sur les pelouses. On l'écoute.
Tant que j'ai faim, je serai ici au Paris Saint-Germain. Et voilà, je suis content de fêter mon 100e match avec le club, surtout avec des champions, avec un but aussi. Voilà, j'espère continuer sur cette lancée. Bien sûr, quand on est blessé, on a envie de vite revenir sur les terrains. J'ai aussi pris mon temps pour bien revenir de cette blessure et voilà, revenir à 100%, même si aujourd'hui je ne suis pas encore à 100%, mais j'espère revenir très bien sur les terrains.
Seule ombre au tableau, une expulsion de part et d'autre en première période à Paris, c'est le défenseur ukrainien Zabarny qui a écopé d'un carton rouge. En attendant, le PSG, vainqueur de la Champions League 2025, reste invaincu dans la compétition. Parmi les autres résultats du jour, le Barça n'a fait qu'une bouchée de l'Olympiakos, succès du FC Barcelone 6 buts à 1. Arsenal aussi a infligé une sévère défaite à l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann. Victoire des Gunners 4 à 0. Manchester City a battu Villarreal 2 à 0. L'Inter Milan s'est promené sur le terrain des Belges de l'Union Saint-Gilloise 4 à 0. Le PSV Eindhoven a dominé Naples 6 buts à 2. Victoire encore de Newcastle sur le Benfica 3 à 0. Et du Borussia Dortmund sur la pelouse du FC Copenhague 4 buts à 2.
Et cette troisième journée de la première phase de la Ligue des Champions se poursuit demain. Et deux clubs français seront sur les pelouses, Marseille et Monaco.
L'Olympique de Marseille ira défier le Sport Sporting Portugal, actuellement sur une bonne dynamique. Les Marseillais vont tenter de ramener un bon résultat, alors qu'ils restent sur une victoire contre l'Ajax 4 à 0 et une courte défaite contre le Real Madrid 2 buts à 1. Match Sporting Portugal-Marseille à suivre dès 6h ce jeudi. De son côté, Monaco retrouvera les Spurs de Tottenham. Les Monégasques qui ont essuyé un lourd revers face à Bruges 4 buts à 1 avant d'arracher le nul face à Manchester City 2 buts partout. Rencontre de Monaco face à Tottenham également programmée à 6h demain matin. matin pour nous. Encore des affiches. Le Bayern Munich, prochain adversaire du PSG qui recevra le club de Bruges, toujours à partir de 6h, heure de Nouméa. Au même moment, l'Ajax d'Amsterdam ira défier Chelsea. Liverpool retrouvera les Allemands de Francfort. On citera encore ce duel entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et la Juventus de Turin, toujours à partir de 6h pour nous.
Le sport côté calédonien pour terminer avec du kitesurf et Arthur Gilbert a décroché ce matin le titre de champion de France en freestyle. La compétition était organisée en métropole dans la région de Port-le-Cat. Arthur Gilbert, le licencié de la SPTT Nouméa Glisse, champion du monde 2021 de kiteboard freestyle, deuxième l'an dernier dans ses championnats de France, a donc remporté le sacre national cette année. Notez qu'un autre des représentants calédoniens, Antoine Olivier, a terminé sur la troisième marche du podium, toujours en freestyle senior.